Think about how difficult it is for sissy boys.
Imaginez comme il peut être difficile pour un garçon efféminé ou pour une fille garçonne de fonctionner en société sans être harcelé ou sans être tourmenté ou sans subir des menaces et de la violence ou sans que leurs parents n'interviennent pour dire « peut-être que tu as besoin d'aller voir un psychiatre » ou « pourquoi tu ne peux pas être normal ?» Donc il y a des pouvoirs institutionnels, comme la normalisation psychiatrique, et il y a aussi des façons de faire plus informelles, comme le harcèlement, qui essaye de nous maintenir dans nos positions genrées. C'est une vraie question pour moi que de savoir comment les normes de genre sont établies et contrôlées, et quelle est la meilleure manière de bousculer et de surmonter cette fonction de contrôle. Je considère que le genre est construit culturellement, mais que c'est également un espace d'action ou de liberté. Il est extrêmement important de résister à la violence qu'imposent les normes de genre modèles, en particulier contre ceux qui se différencient par leur genre, qui ne se conforment pas à leur apparence de genre.
Bonjour et ravi de vous retrouver pour la deuxième et dernière partie de la Grande Table. Avant de retrouver comme un jeudi sur deux le rendez-vous de la médiatrice, c'est la nouveauté de cette rentrée, Emmanuel Davier avec Sandrine Trainer après 13h20. La Grande Table idée se penche et s'épanche aujourd'hui sur nos désirs. Comment lutter contre l'imposition de normes en la matière? Comment conquérir son propre désir et lutter contre la moralisation de l'intime? Après une filiation revendiquée avec Hannah Arendt dans son précédent essai Contre la haine où elle interrogeait les nouvelles formes de violence, elle s'inscrit aujourd'hui dans le courant des études de genre façon Judith Butler avec Notre désir qui paraît au seuil. Spécialiste de philosophie politique, Caroline Emke est notre invitée. Bonjour.
Bonjour.
Et bonjour à votre voix française, Bernard Mangiante. Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi cette exploration du désir, Caroline Emke, à travers l'expérience que vous en avez? Parce que cet essai est aussi ou reprend la forme de l'auto-théorie. Vous vous inspirez de votre expérience personnelle pour aller explorer, comme le titre l'indique, notre désir.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité.
Und ich entschuldige mich, dass ich nur Deutsch sprechen kann.
Je m'excuse de ne parler que l'allemand.
In der Tat, es ist eine vielleicht ungewöhnliche Essayform. Es ist eine subjektive Erzählform, die Erfahrungen mischt mit Meditation, mit Reflexion, mit Analysen.
Oui, c'est effectivement une forme de récit assez peu conventionnelle, une forme subjective qui mélange l'expérience personnelle avec des méditations, avec voilà.
Der Grund, warum ich überhaupt auf meine eigenen Erfahrungen dabei zurückgreife, ist, dass eben nach wie vor über Sexualität, über das Begehren, über die Lust vielfach nicht gesprochen wird, dass Menschen, die etwas anders lieben als die Norm, vielfach noch unhörbar sind.
Si je m'appuie sur ma propre expérience, c'est essentiellement parce qu'on continue aujourd'hui à ne pas parler de la sexualité et qu'en particulier les personnes qui aiment différemment des autres sont tout simplement inaudibles.
Und das Schweigen zu thematisieren, das Tabu zu thematisieren, ist es eben auch wichtig, dass man ich sagt.
Et pour faire en sorte que ce silence et ces tabous deviennent des sujets, il est important de dire je.
Vous écrivez, Caroline Emke, savoir si je suis queer, si mon désir est déterminé génétiquement ou conditionné socialement, ce n'est pas ce qui m'intéresse. À quoi cela servirait-il? Ce qui m'intéresse, c'est comment le désir apparaît chez moi, mais aussi chez les autres. Ailleurs, vous écrivez, nous avons tendance à interpréter notre existence passée à partir du point de fuite de notre présent. Nous attribuons à nos penchants, à notre sexualité, une logique censée traverser toute notre vie afin de nous apparaître à nous-mêmes cohérents dans la formation de notre être. Voilà deux points d'approche de cette essai, réflexion, subjectif que vous réalisez dans Notre désir. Quelle est votre définition du désir? Est-ce que celle de Platon dans Le banquet vous convient? Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà l'objet du désir.
Ich glaube, ich denke weniger über das Objekt des Begehrens nach als mehr über die Subjektivität des Begehrens.
Je réfléchis moins à l'objet du désir qu'à la qu'à la subjectivité de la quête, en fait.
Und für mich, glaube ich, ist zunächst einmal gar nicht so einleuchtend, warum Menschen sortiert werden sollen in Klassen oder Gruppen oder Identitäten nach ihrer Sexualität oder nach ihrer Objektwahl.
Je n'ai jamais très bien compris pourquoi les gens devraient être classifiés en fonction de leur sexualité, de leur choix et de voilà.
Für mich könnte die Sexualität genauso relevant oder irrelevant sein, wie Linkshänder zu sein.
Oui, pour moi, la sexualité, ça devrait être un critère ni plus ni moins pertinent que le fait d'être gaucher, par exemple, de ne pas l'être.
Also, das heißt, für mich ist Begehren zunächst einmal eine Handlung, eine Praxis. Es ist etwas, was man tut, nicht unbedingt das, wer man ist.
Oui, pour moi, le désir, c'est avant tout une action, c'est quelque chose qu'on fait, c'est pas forcément ce que l'on est.
Und in dem Buch hat mich jetzt besonders interessiert, wie jemand, ich oder auch alle anderen, das eigene Begehren entdecken können, auch wenn es dafür keine Bilder, keine Begriffe, keine Vorbilder, keine Ideale gibt.
Ce qui m'intéressait en écrivant ce livre, c'est de m'interroger sur la façon dont moi et d'autres nous pouvons découvrir notre propre désir alors qu'il n'y a pas d'exemple, pas de modèle, pas d'idéaux en la matière.
Et notamment l'homosexualité qui est quand même au cœur du livre, sur cet autre désir que vous racontez, Caroline Emke. On entend déjà dans ce début de réponse que vous faites aussi, ce qui peut apparaître comme une confusion entre le désir et la sexualité et le genre et l'identité. Comment vous arrivez à fondre le désir dans la question de l'identité?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. In der Tat, das ist genau etwas, was mich zentral umtreibt und vielleicht auch ausmacht.
C'est une excellente question, c'est précisément ça qui me fait avancer et puis qui me définit peut-être.
Denn natürlich macht es als queere Person oder als homosexuelle oder als schwule oder als lesbische Person keinen Sinn, in dieser Gesellschaft zu sagen, das ist etwas Privates, das ist etwas Intimes, das ist nur eine Handlung, sondern es wird von außen permanent einem suggeriert, das ist eine Identität, das ist eine bestimmte Lebensform. Und das heißt, man kann sich gar nicht diesen sozialen und politischen Wirkungen entziehen.
En fait, ça n'a pas de sens dans cette société pour une personne queer, homosexuelle, lesbienne ou autre, de dire c'est une chose purement intime, parce qu'on est sans arrêt rangé dans des cases, on dit c'est une identité.
Tout au long du livre, Caroline Emke, vous faites le parallèle entre le désir et la musique, notamment avec la fugue, cette invitation à trouver une forme, la manière, écrivez-vous, dont une structure donnée contribue à tracer des limites normatives tout en permettant d'explorer des espaces de liberté. Fugue en mi bémol mineur du clavier bien tempéré de Bach par Glenn Gould. Comment la musique, Caroline Emke, vous a-t-elle aidé à explorer, comprendre que le désir pouvait prendre des formes nouvelles, comme une fugue réintroduite sous des formes différentes, une même mélodie?
Ja, in der Tat, das Buch handelt mindestens so viel von Musik wie von Begehren.
Oui, je pense que le livre parle presque autant de musique que de désir.
Und es ist auch versucht, das Buch zu bauen wie eine Fuge.
Le livre aussi comme une fugue.
Es gibt einzelne Motive, die auftauchen, die immer wieder durch das Buch
et qui reviennent sans cesse.
Auftauchen und variiert werden.
Des Leitmotivs qui reviennent et qui avec des variations.
Für mich war der Musikunterricht in der Schule tatsächlich.
Et pour moi, ces leçons de musique à l'école, c'était vraiment
das Tor hin.
C'était la porte
zur Unabhängigkeit, zum Freien.
Vers l'indépendance, vers
la
découverte libre et la valorisation de l'homosexualité.
Weil ich über die Musik gelernt habe,
à travers la musique,
dass es eben,
que j'ai appris.
Motive gibt, dass es Normen gibt,
qu'il y a des motifs, qu'il y a des normes
qui gewandelt werden,
qui peuvent être transformées,
qui peuvent être modifiées, interprétées. Diese Interpretation und diese Wandlungen sind
genauso
wichtig.
Ces interprétations et ces transformations sont aussi importantes
die ursprüngliche Norm oder
que la norme d'origine ou que le motif d'origine.
Et cet essai est une quête d'identification de votre désir, comme vous l'expliquez, en faisant ce parallèle avec la musique, mais aussi avec les années qui passent, des expériences différentes qui vous sont arrivées, et vous apprenez à comprendre peut-être simplement ce que vous ressentez, et à comprendre aussi pourquoi la société ferme les portes ou le regard à cette compréhension. Dès le début, vous pointez et dénoncez la norme, qui rend anormale toute autre forme de désir, d'une certaine manière. Et de l'autre, on sent aussi que vous voulez peut-être banaliser ou normaliser cette différence, l'homosexualité. Comment les hétérosexuels peuvent-ils être aussi sûrs de ne jamais éprouver de désir homosexuel, écrivez-vous. Pourquoi les hétérosexuels devraient-ils se poser moins de questions sur leur sexualité que ne le font les homosexuels? Pourquoi vouloir d'un côté dénoncer la norme et d'un autre normaliser cette différence?
Ja, ich glaube, dass für mich das eine der schönsten Reaktionen auf dieses Buch.
C'est l'une des plus belles réactions à ce livre en Allemagne.
Das ist unglaublich viele Briefe von
Menschen. J'ai reçu un nombre incroyable de lettres.
Über ihre Entdeckung, ihre
gens qui me parlent de leur propre découverte de la sexualité.
Die sehr viel älter waren als ich.
Des gens beaucoup plus âgés que moi, souvent. Qui est hétérosexuel.
Die aber einfach die Denkbewegung des Buches mitgemacht.
Et ils ont intégrer la façon dont le livre se construit et se développe.
Und das heißt, nicht einfach für selbstverständlich nehmen, wie man die Vorstellung von sich selbst entdeckt.
Oui, c'est-à-dire ne pas considérer comme allant de soi la façon dont on découvre soi-même son désir.
Sondern natürlich auch die Formen der Lust und des Begehrens von Hétérosexuellen sind
de comprendre que, bien entendu, les formes de sensualité, de désir des hétérosexuels sont aussi déterminées par des normes et des schémas.
Mais il n'y a pas un paradoxe dans cette manière de rendre ou de faire norme, de la mettre en norme, cette différence pour vous, Caroline Emke, de la même manière que vous dites pourquoi se focaliser sur l'origine, la classe sociale, le sexe, la religion comme marqueur de l'identité, comme critère. Et en même temps, dans ce refus de se définir à travers sa sexualité, d'en faire un facteur identitaire, voire communautaire, on peut aussi garder cette différence.
Ja, also ich würde sagen, natürlich besteht darin ein Widerspruch, dass sozusagen für einen Teil der Menschen Normen angeblich unwichtig sind, weil sie ihnen entsprechen.
Pour une partie des gens, les normes sont sans importance, parce qu'ils les enfreignent.
Und für diejenigen, die ihnen nicht entsprechen, sollen sie wichtiger sein. Also natürlich ist darin ein Widerspruch.
Oui, il y a des gens pour qui c'est pas important parce qu'ils correspondent aux normes, excusez-moi, et d'autres pour qui au contraire il y a une contradiction.
Weil sie ihnen nicht entsprechen.
Voilà, parce qu'ils ne correspondent pas à la norme.
Est-ce que la sexualité, Caroline Emke, est pour vous un champ politique? La sexualité et le désir.
Ist Sexualität ein politisches Feld?
Ja, permanent.
Also, en quoi?
Permanent. Also, wir hoffen natürlich und wir denken natürlich, dass es ein Moment ist, in dem wir uns entziehen können der
On espère bien sûr toujours qu'il y aura un moment où on peut se retirer de la politique.
Und natürlich versuchen wir die ganze Zeit in unseren Begegnungen, in
unseren Beziehungen, essaie sans arrêt dans nos rencontres, dans nos relations, dans notre sexualité,
sie herauszunehmen,
de l'extraire du politique.
Und die ganze Zeit ist alles, was wir tun, immer auch geprägt und durchzogen von
tout ce que l'on fait est marqué, traversé
religiösen, par
des représentations sociales, religieuses, politiques, mais aussi par des gestes et
Habitus.
Des comportements. Hein.
Un désir plus libre depuis une quarantaine d'années, estimez-vous, tout en mettant en garde contre des tentatives aujourd'hui de répression nouvelle, voire de régression, un dictat moderne qui aimerait en revenir à la norme et juge déviant, menaçant, pervers, tout ce qui s'en éloigne. Je vous propose d'écouter un extrait d'un documentaire « Révolution sexuelle » qui réinscrit lui aussi ces évolutions et la question de la sexualité dans le champ politique.
La révolution sexuelle a été le résultat de la montée de l'individualisme. Donc ça a donné des combats collectifs sur un moment donné, mais elle a été quand même le résultat de l'affirmation de l'individu et de l'épanouissement de l'individu.
Le néolibéralisme s'accommode parfaitement bien du plus grand libéralisme en matière de mœurs, à la différence du conservatisme traditionnel, qui a une conception traditionnelle de la famille, mais le vrai néolibéralisme, non, il s'en accommode parfaitement, il n'y a aucun problème. Ça n'empêche pas le profit.
C'est-à-dire que justement, dans cette dynamique d'extension et d'expansion qui est de toujours trouver des nouveaux marchés, il y a une intelligence du capital qui fait que, immédiatement, quand quelque chose paraît nouveau et de l'ordre de la contestation, immédiatement, c'est vu et perçu comme un nouveau marché à exploiter. Bon, c'est tout ce qui s'est passé autour de l'exaltation du concept de différence. Parce qu'à partir du moment où vous instaurez des différences, chaque fois, c'est l'ouverture de nouveaux marchés.
Voilà, Caroline Emke, vous venez de rappeler l'importance de la définition ou de la compréhension du jeu. En même temps, vous êtes une femme de gauche, militante, reporter et philosophe aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu ou compris l'essentiel de cette critique, explication de trois chercheurs français, Vincent Vidal-Naquet, Anne-Marie Zone et Annie Lebrun. Pour vous, comment allier aujourd'hui cette critique du capitalisme à laquelle vous vous êtes déjà livré et la défense de la liberté de chacun ?
Il
y a deux points là-dessus.
In der Tat, natürlich ist das Entdecken und das Feiern von
De fait, la découverte et la célébration de l'homosexualité
schlicht und ergreifend ein kapitalistisches Geschäft.
Ein business capitaliste aussi.
Und es ist genau damit auch Marketing gemacht worden.
Ja, on fait du marketing avec.
Also aus rein ökonomischen Gründen.
Pour des motifs purement économiques.
Es gibt in der Tat auch darin etwas, was ich absurd und auch ein bisschen lächerlich finde.
Il y a de fait quelque chose que je trouve un peu absurde et ridicule.
Also ich glaube nicht, dass es besonders hip oder besonders cool ist.
Je crois pas
cool
que ce soit particulièrement hip ou cool d'être queer.
Es ist auch nichts, worauf man unbedingt stolz
c'est
sein
pas quelque
muss.
Chose dont on doit spécialement être fier.
Es ist einfach.
C'est ça, tout simplement. On est ça.
Es gibt aber einen zweiten Punkt, da werde ich ein bisschen nervös.
Mais il y a un deuxième point là, ce qui me rend un petit peu plus nerveuse.
Es gibt jetzt seit der Wahl von Trump.
Et il y a depuis l'élection de Trump.
Die Neigung zu sagen, ja, all diese Minderheitenfragen und
Diversitätsfragen,
die seien auch übertrieben worden.
Oui, on tend à dire toutes ces histoires de minorités, on a un peu exagéré.
Das ist nur ein neoliberales Motiv gewesen.
C'est pas simplement un truc pour les néolibéraux.
Die eigentlichen sozialen Fragen der weißen Arbeiterklasse habe man vernachlässigt.
Oui, et qu'on a négligé les vraies questions sociales qui étaient celles de la classe blanche pauvre.
Und da war ich so ein bisschen nervös, weil ich
sage, ça me rend un petit peu nerveuse,
alle Fragen von Anerkennung, ob es Black Lives
parce que
Matter
toutes les questions de reconnaissance, que ce soit celle des homosexuels, des féministes, que ce soit les mouvements LGBT,
pro-flüchtlingsbewegung,
ou les mouvements pour l'aide aux réfugiés,
soziale Fragen.
Tout ça, c'est des questions sociales.
Das sind nicht einfach kulturelle
Fragen. Ce ne sont pas des questions culturelles,
sind soziale Fragen.
Mais
genauso wie die
ce sont des questions sociales tout autant
auch wie die Fragen der Arbeiterklasse.
Que les questions liées à la classe ouvrière.
Ou Fragen der Anerkennung sind.
Les questions de reconnaissance sont aussi des questions culturelles.
Und das
mais
heißt, es gibt diese Form des linken Diskurses, der versucht,
donc il y a ces formes de discours à gauche où on essaie de séparer l'un côté de l'autre.
Das halte ich für falsch. Das halte
et
ich
je pense
für
que c'est faux.
Für falsch und politisch
c'est empiriquement faux et politiquement faux.
Ça veut dire que ces questions intéressent tout le monde et concernent tout le monde pour vous aujourd'hui?
Ja, ich bin Universalistin.
Oui, bien sûr, moi je suis universaliste.
Mich interessiert nicht Identitätspolitik. Moi,
je ne m'intéresse pas à une politique de l'identité.
Mich interessieren Freiheitsrechte.
Ce qui m'intéresse, c'est les droits, la liberté.
Aber als humanistische Fragen, nicht als identitätspolitische Fragen.
Mais en tant que question qui relève de l'humanisme et non pas d'une politique de l'identité.
Vous dites que l'homosexualité est longtemps restée invisible, hors champ, abstraite, sans mots, et vous lui donnez aussi à travers cet essai, ce livre, une visibilité à cette quête de désir et cette montée du désir, Caroline Emke. Est-ce que chemin faisant, vous essayez aussi de déconstruire les catégories du genre ?
Ja, ich glaube, in der Tat, es geht auch um eine andere Sprache zu suchen.
Oui, je crois qu'il s'agit de chercher un autre langage, d'autres concepts, d'autres images.
Also insofern geht es nicht nur um Thema.
Donc il s'agit pas simplement d'un sujet, d'un thème. Il s'agit pas de déconstruire les catégories, il s'agit de trouver une forme.
Und vielleicht darf ich, wenn ich das noch sagen darf,
et si je puis me permettre de rajouter,
darum, ein Buch zu schreiben, das nicht wieder ein Buch der Mélancolie,
oui, et surtout, c'était important pour moi d'écrire un livre qui ne soit pas à nouveau un livre de mélancolie, de deuil, de tristesse,
auch ein Buch,
mais aussi un livre sur le bonheur.
Vom Glück dieser Lust spricht.
Ouais, sur le bonheur de la sensualité. Voilà, parce que.
Weil es das kaum gab, als ich aufgewachsen bin.
Ah oui, peut-être toutes ces choses qui n'existaient pas lorsque, dans ma jeunesse. Quoi.
Oui, ça n'existait pas, et notamment à travers l'école, vous racontez ces années avant 20 ans où vous vous égarez, où vous avez l'impression que les champs ne sont pas ouverts. Se repose alors la question du lieu pour, dans ce retour sur l'éducation à la sexualité à l'école, vous dites on enseignait que des techniques de procréation ou de prévention de la grossesse, mais pas l'amour ni le plaisir. Est-ce que vous pensez que des institutions comme l'école devraient apporter aussi une part d'enseignement sur ces questions-là? Est-ce que c'est vraiment la place, le lieu pour? Ça fait débat aussi aujourd'hui en France.
Oui, je sais que c'est un débat très agité en France en ce moment. Je sais. Et je ne vais pas me faire des amis si je me mêle de ça.
Aber natürlich, und zwar.
Mais bien sûr, oui.
Mit einer ganz heiteren Selbstverständlichkeit.
Mais avec une espèce d'évidence joyeuse.
Schon durch die Auswahl der Bücher, die gelesen.
Ne serait-ce qu'à travers le choix des livres qu'on leur fait lire.
Der Kunst, die diskutiert.
Par le choix des œuvres d'art qu'on leur fait discuter.
Durch die Auswahl der Filme.
Le choix des films qu'on leur fait voir.
Wie ich selbstverständlich finde, dass in Frankreich auch Autoren aus dem arabischen Raum.
Moi, je trouve que c'est évident qu'en France, cela va de soi que les auteurs du monde arabe soient lus.
Das ist schwarze französische Autoren.
Qu'il y ait des auteurs français originaires d'Afrique et d'ailleurs.
So selbstverständlich finde ich, dass es eben auch homosexuelle Autoren gibt, deren Lust und
pour moi, il est tout aussi. Il va tout autant de soi qu'il y ait des auteurs homosexuels dont on puisse discuter des œuvres.
Von dem, was Aufklärung angeht, noch mal ganz zu schweigen. Also selbstverständlich muss in Schulen, in denen über Aufklärung gesprochen wird,
de la fameuse éducation sexuelle,
homosexuelle Sexualität.
Oui, et qu'on devrait parler de la sexualité homosexuelle aussi.
Jusqu'où redéfinir, déconstruire la norme aujourd'hui? Le sujet est vaste. On parlait de cette question, de la place de cette question à l'école, jusqu'à notre propre compréhension de cela. On pourrait aussi se demander si, à part déconstruire les catégories de genre, il ne faudrait pas aussi le faire pour celle de la famille, de l'identité, du corps. Sur cette question du regard extérieur, vous écrivez « Nous ne sommes pas uniquement ce que nous voulons être, nous sommes aussi ce que les autres font de nous ». Est-ce que la limite à cette déconstruction, elle n'est pas là, Caroline Emke? Est-ce que imposer aux autres de voir ce que l'on veut être ou ce que l'on veut qu'ils voient, c'est pas là le début de l'intolérance?
Ja, also ich bin sehr stark geprägt in vielen Hinsichten von Sartres.
Oui, j'ai été dans sur pour beaucoup d'aspects, j'ai été très marqué par Sartre et ses réflexions sur la question juive.
Bei Sartre ist dieses Moment des
chez Sartre ce moment
der Prägung der jüdischen Identität durch den Antisemitismus, durch den
c'est la façon dont l'antisémitisme a marqué l'identité juive, ce moment est très important.
Und ich glaube eben, Identität ist durch beides geprägt.
Je crois que l'identité est marquée par les deux aspects. Aussi bien par la reconnaissance que par le mépris.
Ich glaube in der Tat, Sie haben völlig recht.
Et vous avez tout à fait raison.
Le
début d'un plus grand
respect.
Voilà, c'est de prendre conscience de cette intersubjectivité.
Dans votre dernier essai, Caroline Emke, Contre la haine, vous exploriez, racontez, décriviez cette haine raciste, sociale, sexiste, anti-religieuse, fondée à vos yeux sur un processus consistant à rendre invisibles les différences, un désir d'homogénéité, le culte de la pureté. Et là, en cela, on rejoint cette réflexion ouverte aujourd'hui sur le désir. Pendant ce temps, en Allemagne, on a pu voir apparaître un hashtag « Wir sind mehr ». Nous sommes plusieurs, ce pluralisme mis en avant par des manifestants. C'était une mobilisation citoyenne dont le slogan faisait écho à votre plaidoyer pour l'impur, pour la différence, celui porté donc dans Contre la haine. Mais c'était aussi un hashtag en réponse aux manifestations d'extrême droite des derniers jours à Chemnitz et à Köthen.
La scène est désormais familière. Comme c'est le cas presque quotidiennement depuis 2 semaines, ils sont plusieurs centaines à s'être rassemblés pour une nouvelle manifestation anti-migrants à Chemnitz, en Allemagne. Depuis le meurtre d'un homme attribué à des demandeurs d'asile, les anonymes n'hésitent plus à répondre à l'appel de l'extrême droite locale.
Nous n'avons pas de problème avec les étrangers du moment qu'ils s'intègrent, qu'ils travaillent ou qu'ils souhaitent travailler et qu'ils ne nous imposent pas leur culture. C'est le béaba. Beaucoup de gens ont peur aussi parce que la situation sécuritaire ne fait qu'empirer.
Est-ce que là, c'est pas une des dérives de cette question identitaire? Est-ce qu'aujourd'hui, Caroline Emke, les identités de race, de genre, mais aussi les identités nationales ne commencent pas à prendre trop de place à vos yeux?
Oui, sans aucun doute.
Wobei man natürlich auch immer sagen kann, man kann ja auch sich sozusagen einfach als Mensch, als Teil der Humanität, als Teil.
On peut bien sûr se définir comme être humain, comme partie de l'humanité.
Pluralen, hétérogène Gesellschaft.
Et on peut se définir comme faisant partie d'une société hétérogène et plurielle.
Es wird zurzeit immer so getan, als ob man ein starkes.
Mais en ce moment, on n'arrête pas de faire comme s'il y avait un sentiment d'appartenance très fort.
Nur in der kleinsten Einheit.
Et simplement au plus petit niveau possible.
Ja, aber ich kann auch ein absolut starkes, beglückendes Zugehörigkeitsgefühl.
Mais je peux développer un sentiment d'appartenance très fort, très heureux, vis-à-vis, par exemple, d'une Europe à plusieurs voix.
Donc, dans ce désir de libération un peu des identités de chacun, il faut pour vous prendre en compte toutes les identités.
Man müssen alle Identitäten im Kauf genommen werden.
Nee, wir müssen die Identitäten, die andere ausschließen wollen, überhaupt nicht in Kauf nehmen.
Il ne faut surtout pas prendre en compte les identités qui veulent exclure les autres identités.
Keinerlei Akzeptanz für diejenigen, die sich nicht auf
Toleranz zéro pour ceux qui
auf eine vielfältige, aufgeklärte, säkulare Gesellschaft einlassen wollen.
Oui, Toleranz zéro pour ceux qui refusent une société sécularisée, ouverte et tolérante justement.
Voilà, il fallait le dire. Caroline Emke, notre désir. Votre ouvrage Essai vient de paraître au Seuil. Merci beaucoup à vous d'être passé autour de cette grande table. France Culture, il est 13h23.
La grande table. Le rendez-vous de la médiatrice.
Est-ce que vous avez noté le petit changement dans ce jingle? Effectivement, comme un jeudi sur deux, vous allez retrouver votre rendez-vous avec le médiateur Trice, devenu ainsi cette année. C'est une nouveauté. Bruno Denas est parti à la fin de l'année dernière. On l'avait amplement salué. Nous a rejoint maintenant Emmanuel Davier. Bonjour.
Bonjour Olivia.
Et à vos côtés aujourd'hui, Sandrine Trainer. Bonjour.
Oui, bonjour Olivia. Et peut-être on va juste inverser les rôles pendant 30 secondes. Peut-être ce serait, nos auditeurs seraient heureux de savoir d'où vous venez dans cette grande maison, Emmanuel.
Alors, j'ai commencé dans cette grande maison à France Info, à la rédaction en chef des chroniques, et j'avais également une chronique liée à la consommation, et je suis restée à la rédaction de France Info pendant 8 années, et ensuite j'ai poursuivi ma carrière à France Inter, et je suis passée par tous les postes, reporter, chroniqueuse, chef de service, et puis chef du service société. Et lorsque les attentats de janvier janvier 2015 se sont produits, Laurence Bloch s'est interrogée sur la mission citoyenne qui pouvait être celle d'Inter et elle m'a confié la charge de d'imaginer un programme qui pourrait inclure des élèves qui grandissent dans les quartiers économiquement défavorisés de notre territoire français et en lien avec les journalistes. Et donc, j'ai conçu avec des enseignants un programme qui s'appelle Interclass. Et c'est un grand programme d'éducation aux médias et à l'information. Et lorsque Bruno Donas est parti, je me suis dit qu'il y avait probablement des moyens de poursuivre ce travail d'éducation aux médias et à l'information en faisant de la pédagogie auprès de publics élargis. Et donc j'ai proposé un projet à Sybille Veil. Et je pense que le fait qu'elle m'ait nommée comme médiatrice des antennes de Radio France valide ce projet. Et je souhaite vraiment qu'on puisse le mettre en œuvre très prochainement avec toutes les équipes de Radio France.
Alors, comme un peu de pédagogie.
Oui, vous allez faire.
D'une certaine façon, on pourrait dire que vous êtes passé donc de l'éducation aux médias à la rééducation des médias, sauf que c'est la rééducation de nos médias à Radio France.
Exactement. Et alors, comme vous le savez, le travail d'une médiatrice, eh bien, ça consiste à relayer auprès des journalistes, des producteurs, des directions d'antenne, les remarques des auditeurs. Et il y a parfois de la colère, de l'inquiétude, de l'indignation, mais aussi, et c'est heureux, de véritables déclarations d'amour. Et c'est avec une déclaration que je souhaite amorcer ce rendez-vous. Cette déclaration est signée Arnaud et voici ce qu'il écrit. France Culture, quelle fait du bien cette station. C'est toujours agréable de se coucher moins bête que la veille. Je suis enseignant et j'adore apprendre, découvrir. Je suis fan de cette station. Faites-la perdurer. Mais France Culture, c'est aussi une qualité sonore. L'une de ses forces, c'est d'avoir une prise de son qui nous plonge dans l'événement. C'est formidable. Félicitations à toute l'équipe, sans distinction. Alors Sandrine Trainer, comment allez-vous entretenir la flamme d'Arnaud?
Alors d'une part, est-ce qu'il serait possible de recevoir le 06 d'Arnaud pour Olivia qui vient de le demander à mes côtés?
Mais pas du tout, Olivia. Oui, tout à fait, madame la directrice.
comment D'abord, en partageant cette flamme. Remerciement sincère à cet Arnaud qu'évidemment nous ne connaissons pas. Nous partageons cette flamme. Et nous avons repris cette nouvelle année, il y a maintenant 2-3 semaines, après, je crois, un bel été sur France Culture. Nous l'avons repris dans la continuité de ce que nous défendons ici, c'est-à-dire une certaine conception du temps dévolu aux idées, au savoir, à la création, du temps de déployer des idées, comme on l'entend dans cette deuxième partie de la Grande Table. Et donc, nous proposons à nos auditeurs une grille très très fidèle à celle qu'ils ont entendue l'année dernière et qui nous a valu des records historiques d'audience. Et un vrai rajeunissement de nos publics, et c'est très important pour une radio de service public, comme vous le savez. Quelques nouveaux rendez-vous néanmoins, des émissions qui ont changé un peu leur formule. Et puis peut-être citer une nouvelle émission dédiée à l'alimentation qui s'appelle Les Bonnes Choses, le dimanche à midi. Et puis une manière de réfléchir à la façon dont la culture est un signe des temps en elle-même, c'est-à-dire comment, à travers la culture, on entend bouger, évoluer une société. Et nous avons une nouvelle émission dédiée à cela, Marc Weitzman, c'est Signe des temps le dimanche à 12h45, et un podcast natif que fait Mathilde Serrel, parce que nous nous développons beaucoup, comme vous le savez, sur le numérique.
Alors, outre des mails élogieux, et puis cette approche éditoriale où la culture est analysée comme un fait de société, il y a aussi dans le courrier des auditeurs des sujets d'inquiétude, notamment la création radiophonique et les papous. Alors je vous livre le message de David. Il nous dit « Je viens de prendre connaissance de la nouvelle grille de France Culture et je voulais vous exprimer ma grande surprise en voyant que l'émission « Création en air » a été supprimée. Je suis vraiment choquée car ces émissions étaient d'une qualité et d'une originalité absolument géniales. J'imagine que cette décision a été prise pour réduire les coûts. » Alors donc, on observe des inquiétudes. Quels sont vos projets dans ce domaine, Sandrine Trainer?
Alors d'abord, je voudrais dire à cet auditeur que Création en air n'a pas du tout été supprimée et toujours sur la grille de France Culture.
Donc là, il y a un petit changement d'horaire peut-être à lui indiquer.
Il y a un changement de jour. Création en air est diffusée le dimanche de 23h à minuit, mais il est vrai que c'était une émission qui avait 2 heures, de 23h à minuit, le mardi et le mercredi sur la grille de l'année dernière. Nous avons considéré que c'était un territoire suffisamment important pour que il faille que nous réfléchissions à la façon dont nous avons envie de le réinventer tous ensemble ici, les techniciens, les chargés de réalisation, les producteurs. Et donc nous avons engagé avec Aurélie Charron, notre productrice des émissions de création, nous avons engagé une réflexion qui aboutira en janvier 2019 avec de nouveaux rendez-vous dédiés à la création radiophonique. Et peut-être, puisque notre temps, je crois, est un peu compté, et plus que compté, dire qu'il en va de même des Papous dans la tête. La productrice, après des années et des années, a souhaité faire valoir ses droits à la retraite, comme on dit. Elle est donc partie cet été, mais avec un certain nombre de Papous, nous allons réinventer un rendez-vous dédié à l'humour et aux jeux littéraires. Ce sera aussi en janvier 2019.
Merci beaucoup Sandrine Trainer, et merci à vous Emmanuel Davier. Les auditeurs de France Culture ou d'ailleurs peuvent continuer à vous écrire à l'adresse.
C'est sur le site du médiateur, tout simplement.
Ou de la médiatrice. Merci beaucoup, on se retrouve dans deux semaines, jeudi en deux, comme on dit. France Culture, il est 13h31.